CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur de légende, le podcast incontournable pour vous, petit amateur de parcours incroyable. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média, et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Tu vas bien ?
Super, et toi ?
Ah, ça va super bien. Alors Sylvain, quand on pense à des entrepreneurs, on ne pense pas spontanément à des banquiers. Et pourtant, en finance aussi, on innove. Et c'est sûrement le plus grand des entrepreneurs bancaires qui va nous le prouver en la personne de Mayer Amschel Rothschild.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors, Mayer Anselm, il s'appelle pas encore Mayer Amschel, on va le voir, est né le 23 février 1744 à Francfort-le-Main.
Oui, en effet, il est né donc à Francfort d'une famille juive et dans le ghetto juif. Donc c'est très important, ce ghetto qui s'appelait la Judengasse à l'époque, donc la ruelle des Juifs, qui était, donc, comme son nom l'indique, une rue dans laquelle vivaient environ 3000 Juifs, donc ouvertement discriminés, hein, c'était très clair. Donc ils étaient entassés dans cette rue-là, fermés la nuit, avec un couvre-feu, avec des taxes plus élevées.
C'était complètement antisémite.
Ah oui, assumé, hein, 100%. Assumé et avec beaucoup de métiers qui leur étaient interdits. La plupart d'ailleurs des métiers leur étaient interdits, sauf les métiers de la banque et du commerce, disons globalement de la finance et du commerce. Donc c'est pas surprenant que son père était au début un petit commerçant colporteur.
C'est d'ailleurs parce que ces métiers-là étaient interdits aux catholiques.
Oui, alors le prêt intérêt a longtemps été très critiqué par l'Église et interdit dans certains cas. Donc c'est vrai que c'est plutôt les juifs qui ont exercé historiquement cette profession, puisque les chrétiens, eux, d'un point de vue religieux, c'était beaucoup plus contraint, disons, pour exercer toutes les activités en fait, de prêt intérêt qui étaient condamnées par l'Église.
Et donc tu l'as dit, il est né dans une famille de petits commerçants.
Voilà, très très pauvre, très modeste. Hein. Donc les gens qui étaient entassés dans cette rue étaient globalement très pauvres. Donc son père au début avait un petit commerce de colporteur dans la région, et ensuite il a ouvert donc dans cette rue une échoppe d'antiquités, de pièces anciennes. Donc c'était un commerce très modeste, hein, qui faisait difficilement vivre la famille. Et d'ailleurs, toutes les personnes de cette rue avaient énormément de mal à vivaient dans la pauvreté, bien sûr à cause des persécutions, des lois antisémites qui bridaient totalement la capacité qu'ils avaient à travailler et à s'enrichir.
Il a été éduqué dans la religion et il a été poussé dans les études.
Oui, donc c'est une famille très croyante, très pieuse. Son père veut qu'il devienne rabbin, donc il l'envoie à Fürth, dans le sud de l'Allemagne, dans une école rabbinique réputée. Donc c'est un garçon studieux, donc on le pousse à l'étude et il aime les disciplines intellectuelles. Et à l'école rabbinique, il va notamment tomber dans la bibliothèque sur des livres d'économie. Alors l'économie en tant que science, comme aujourd'hui, n'existait pas vraiment, mais il y avait déjà des penseurs qui réfléchissait à ces questions, sur des livres aussi de finances, et qui le passionne en fait, qui le passionne même plus que ses études religieuses. Donc en fait, c'est presque un petit peu par hasard qu'il va tomber sur ces livres et commencer à s'intéresser aux questions financières et économiques. Et ensuite, il va aussi réaliser ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un stage dans une banque, donc une petite expérience professionnelle dans une banque.
Un peu le stage de troisième.
Oui, le troisième ou le terminal, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais c'est un peu l'équivalent. Voilà, il travaille quelques mois dans une banque à Hanovre, donc une banque juive, bien sûr, puisqu'il lui aurait été interdit de travailler dans une banque chrétienne. Et il va apprendre sur le tas et il va se passionner pour tout ce qui touche à la finance, à l'argent. C'est des choses qui lui viennent très, très naturellement, qui lui sont très spontanées. Il est très bon en maths, il a une très bonne mémoire, une très bonne capacité d'analyse. Et donc, il voudrait s'orienter dans cette direction, seulement que son père, lui, le prédestine à être rabbin.
Tu l'as dit, hein, son profil, c'est d'être bon élève, il est intelligent, il a de l'ambition, il présente bien, il a quand même, il coche quand même toutes les cases pour devenir quelqu'un d'important.
Oui, il est intelligent, il est grand, il a un physique avenant, il est plutôt beau gosse, disons.
En plus.
Il est ambitieux, hein, il a vraiment la rage de vaincre, l'envie de sortir de cette condition assez misérable, assez contrainte dans laquelle il vit. Ce qui va faire, disons, basculer sa vie, c'est le décès de ses parents.
Oui, c'était les seuls freins, voilà, à un autre métier que rabbin.
Voilà, son père voulait à tout prix qu'il soit rabbin, il était contraint de lui obéir. Donc ses parents décèdent décèdent tous les deux à peu d'intervalle. Et donc, du coup, il va reprendre le commerce d'antiquité de son père, donc arrêter ses études de rabbinique, reprendre le commerce de son père, qui va ensuite faire prospérer.
En parallèle, il arrive à se marier. En 1770, pardon.
Voilà, il se marie, tu dis il arrive à se marier, puisqu'en effet les lois antisémites étaient telles que le nombre de mariages autorisés aux juifs était limité, donc il fallait obtenir une autorisation. Donc il arrive à obtenir cette autorisation et à se marier donc en 1770. Il aura donc ensuite 19 enfants, dont 9 mourront en bas âge à la naissance.
Il était ambitieux là aussi.
Voilà, il y aura 10 enfants qui ont survécu. On en reparlera, puisque Rothschild, c'est aussi une lignée, c'est pas juste le fondateur.
Bien sûr.
Et donc c'est à ce moment aussi pour faciliter, disons, son ascension sociale, qui change de nom. Donc, tu le disais au début, hein, il est né Meyer Anselm. Il va changer son nom en Meyer Amschel, donc pour le germaniser. Et il va commencer à se faire appeler Rothschild.
Parce que ce n'est pas son nom de famille, Rothschild.
Ce n'est pas son nom de famille. En fait, Rothschild, c'est le nom de sa boutique, qui s'appelait Zum Rothenschild, donc à l'écusson rouge. Et il va reprendre Rothschild, donc l'écusson rouge. Il reprend le nom de sa boutique, ce qui était une pratique assez courante. Hein. Il n'y a rien de très extraordinaire à ce niveau-là. Et donc, petit à petit, il va se faire appeler Rothschild. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne le connaît en fait que sous ce nom-là.
En fait, il a un peu germanisé son nom, quoi.
Voilà, il a changé son nom pour le germaniser et faciliter son insertion en dehors de la communauté juive, en fait.
Donc, la reprise de la société se fait assez rapidement. Et rapidement aussi, il va un peu changer d'activité.
Voilà, donc toute sa stratégie, ça va être de se diversifier. Donc il continue le commerce d'antiquités, de pièces anciennes. Il développe une activité de prêt, donc de prêt sur gage, prêt à intérêt, etc. Il va étendre son entreprise. Donc c'est très difficile puisqu'il est contraint à cette unique rue. Donc il a très peu de place. Donc
oui, normalement, il est contrôlé, quoi.
Voilà, donc il va un peu louer les caves des voisins pour y stocker du matériel, y faire des coffres pour offrir aussi une activité de appelons ça de gestion de fortune. Donc il garde de l'argent de riches hommes d'affaires qui savent pas trop où le placer, qui ont un peu peur pour leur argent, donc il offre cette sécurité là
donc il se retrouve dans les sous-sols de ce ghetto.
Voilà, donc dans les caves, en fait, il aménage les caves, puisqu'il lui interdit de construire de nouveaux bâtiments. Il aménage les caves, il loue les caves des voisins pour
donc
en
c'est
faire
quasiment
des coffres.
Clandestinement, cette activité.
Oui, disons que c'était, je pense qu'on peut dire que c'était un clandestin toléré par les autorités, quoi. Bon, tant que ça se faisait que dans les caves, il devait fermer à peu près un peu les yeux. Mais c'était évidemment contraint, puisqu'il ne pouvait pas construire de nouveaux bâtiments comme il le souhaitait.
Et tu l'as dit, c'est important, c'est qu'il gardait de l'argent pour des personnes riches. C'est un peu son carnet d'adresses qui est des premières raisons de son succès.
Oui, donc au fur et à mesure de cette activité de pré-intérêt, disons de gestion de fortune, et il va rencontrer notamment un général, disons qui a un très large carnet d'adresses, von Estorff. J'espère que j'écorche pas non plus son nom. Et ce général va l'introduire un peu dans les milieux influents, et il va rencontrer notamment Guillaume IX, donc qui était un peu le prince de cette région-là. Et il va devenir ce qu'on appelait son juif de cour, c'est-à-dire que vu que les chrétiens n'avaient pas trop le droit de faire des activités financières, chaque prince avait un juif qui gérait pour lui sa fortune. Et donc la petite histoire veut que Guillaume IX était en train de jouer aux échecs, était en train de perdre, et Rothschild arrive à ce moment-là, il a introduit donc par le général à ce moment-là, et il dit au prince, bah hop, il faut jouer ce coup-là, et le prince joue ce coup-là, et il mémate son adversaire.
C'est la légende, ça.
C'est la légende, on ne sait pas trop si elle est vraie, mais enfin, c'est ce qui se dit.
Et donc ça devient son juif de cour.
Voilà, donc il devient en fait le gestionnaire de fortune, hein, on dirait aujourd'hui, donc du prince de cette région-là. Et bien sûr, à partir de là, il développe son carnet d'adresse, il étend ses activités, donc c'est vraiment le lancement de la banque Rothschild.
Il devient un des plus riches commerçants et même banquiers de Francfort, mais c'est quasiment une sorte de plafond de verre pour lui, il ne peut pas aller plus haut.
Voilà, donc il développe son activité même au-delà de la banque. Hein. Donc il fait de la banque, de la gestion de fortune, du commerce d'antiquité, il se met à faire du commerce tout court, de denrées alimentaires, de toutes sortes de denrées. Il développe un réseau de communication par pigeons voyageurs très développé, ce qui lui permettait parfois d'être même mieux informé que les princes ou les dirigeants. Et donc bien sûr, l'information, ça se monnaie, hein, en finance, c'est le nerf de la guerre. Il investit dans des infrastructures, donc dans la sidérurgie, dans une première ligne de train, au début tirée par des chevaux. Hein, donc il a vraiment senti la révolution industrielle, même si elle était encore balbutiante. Hein, on est encore au XVIIIe siècle, mais il a senti ce qui allait venir, il a investi dans des canaux, dans le charbon, la scierie, etc. Mais c'est vrai, tu l'as dit, il y a un plafond de verre tout simplement parce qu'il est juif, et donc ça limite ses activités. Et ce qui va le servir, en fait, lui permettre de s'élever, c'est la guerre, c'est donc la Révolution française et les guerres napoléoniennes, puisque à plusieurs reprises, d'abord les armées révolutionnaires et ensuite les armées de Napoléon envahissent l'Allemagne, envahissent Francfort, et les Français, disons, eux n'ont pas cet antisémitisme un peu viscéral, et ils n'ont aucun problème à faire affaire, ça fait un peu une répétition, oui. Mais on comprend, on va faire affaire avec Rothschild, avec des Juifs, et donc en fait c'est l'invasion française qui va d'une certaine façon libérer les Juifs de Francfort et qui va casser le plafond de verre qui empêchait Rothschild de devenir vraiment un banquier de stature nationale ou internationale. Et bien sûr aussi la guerre, c'est l'occasion pour lui de faire des affaires tantôt avec une armée, tantôt avec une autre. Donc il finance les armées allemandes ou autrichiennes ou autres. D'un autre côté, il vend du matériel aux armées françaises. Il a aucune scrupule à ce niveau-là. Hein. Tant qu'il a des bons clients, il les prend.
Donc, il a su tirer un peu parti des événements qui se passaient. Quoi.
La guerre, en fait, lui a été doublement bénéfique pour casser le plafond de verre et pour avoir une activité supplémentaire.
Et un trait important de Rothschild, c'est que depuis le début, il traite tous les clients de la même façon.
Oui, alors il s'est bâti une réputation d'honnêteté, de rigueur absolument intraitable avec ses clients et avec tous ses clients. C'est-à-dire que c'est pas, il y a un client qui est puissant et fortuné, je le traite bien, je suis honnête avec lui, et puis par contre, le petit client, je me permets de l'escroquer un peu. Et ce qui l'a aidé à réussir, c'est la réputation qui s'est acquise d'honnêteté avec tout le monde. Parce que, bon, des fois, les grandes banques, il peut y avoir un peu de poids de mesure dans le service rendu, lui rend un service le meilleur qu'il peut à tous ses clients, y compris les petits, et ça lui donne vraiment une excellente réputation qui, bien sûr, lui permet ensuite d'attirer encore plus de clients.
Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, enfin, tu as commencé à l'aborder, une des raisons de la vraie reconnaissance de Rothschild maintenant, c'est la stratégie qu'il va avoir avec ses enfants.
Voilà, donc il a 10 enfants, quoi, 10 enfants qui ont survécu, 5 garçons et 5 filles. Donc Rothschild, c'est un homme de son époque assez traditionaliste, donc les filles restent à la maison. Et ses 5 fils vont prendre la succession de l'entreprise et il va les envoyer donc, dans 5 capitales. Donc il envoie un fils à Naples, un à Vienne, un à Paris, un à Londres et un qui reste à Francfort. Donc c'est les 5 flèches du logo aujourd'hui de Rothschild, ce qui permet à la banque de conquérir en fait tout le marché européen, de plus être seulement cantonné à Francfort. Et c'est ce qui explique aussi ces 5 fils que la banque soit devenue aussi grande et aussi prospère, aussi puissante dès le 19e siècle, puisque s'il avait eu qu'un fils ou qu'un enfant, bon, très probablement elle n'aurait pas connu le succès qu'elle a connu par la suite.
D'autant plus qu'il y en a qui ont vraiment très bien marché. Je pense à la France ou à Londres.
Oui, c'est surtout les branches françaises et londoniennes qui ont prospéré par la suite. La branche de Naples et de Vienne, un peu moins. À la limite, Naples, vu que c'est une ville qui s'est moins développée d'un point de vue économique, c'est un peu moins grave pour la banque. Mais c'est vrai que les branches parisiennes et londoniennes, et celles de Francfort aussi, sont un peu les trois qui ont porté le succès de la banque ensuite.
Il décède en 1812, il est riche et puissant.
Voilà, donc quand il décède, c'est une des personnes les plus riches, les plus influentes de son époque. La petite histoire, le dicton veut qu'il contrôle tout, sauf le temps, ce qui donne une idée de sa puissance. Et bien sûr, le 19e siècle et le début du 20e siècle, ce sera vraiment la période de puissance de Rothschild. Alors certains diront qu'ils ont abusé de leur puissance, il y a eu tout un tas de complots plus ou moins fantaisistes.
Oui, il y a une vraie zone d'ombre autour de Rothschild.
Oui, encore aujourd'hui, hein, le fait par exemple que le président Macron ou Pompidou ait travaillé pour Rothschild, ça suscite parfois des critiques, des interrogations sur des conflits d'intérêts, etc. Donc Rothschild, c'est une banque qui est devenue extrêmement puissante et donc du coup, cette puissance a alimenté je ne sais pas s'il faut appeler ça des fantasmes, des critiques, en tout cas, ça ne laisse pas indifférent, disons. C'est vraiment un succès gigantesque, une fortune colossale, avec bien sûr une banque qui est devenue, on l'a dit avec les pigeons voyageurs, hein, parfois presque plus puissante que les États, avec des réseaux de communication plus puissants. Et donc, il n'est pas impossible que Rothschild ait parfois profité de ça pour s'enrichir au détriment des États, des contribuables ou autres.
Un vrai synonyme de pouvoir, en tout cas.
Oui, de pouvoir et de richesse.
Une intelligence et une audace dans le monde de la finance, une rigueur du travail, un peu de chance et une stratégie familiale réfléchie, voilà la recette qui permit à Mayer Amschel de faire de son nom Rothschild le synonyme de la richesse et de la réussite. Merci Sylvain.
Merci à toi.
Je vous rappelle que tous les épisodes d'Entrepreneurs de Légende sont écoutables sur CDI Podcast, évidemment, ou sur toutes les bonnes plateformes audio. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir un nouveau portrait tout autant intéressant. À très vite.
CDI Podcast. Entrepreneurs de Légende.